Bienvenue chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Dans le cadre de mon émission Bienvenue chez le roi, je vous propose une saga romantique dont je suis l'auteur. Dans les Lumières de l'amour, je vous entraîne à la cour de Louis XV avec le prince russe Victor Casbec et la duchesse Marie-Angélique de la Doucelle. Dans la précédente émission, la duchesse Marie-Angélique de la Doucelle vient d'apprendre qu'elle attend un enfant conçu à Versailles et elle sait que le père est le prince Victor Casbec. Marie-Angélique avait retourné tous ses arguments dans sa tête pendant quelques jours et un matin, elle s'était réveillée des potrons minés, préparée, habillée, avait demandé qu'on lui attelât sa calèche et après avoir avalé rapidement son chocolat matinal, sans lequel, comme elle le disait avec humour, elle ne pouvait pas tenir debout, et, mantille noire en tête, elle était partie pour être à l'heure à la première messe basse de la Bécouette en l'église d'Amenay, au bout de la grande allée. Trois personnes seulement assistaient à l'office et elles étaient parties, après l'avoir salué, juste après la dernière bénédiction de l'officiant. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus, Sanctus. Amen. Deo gratias. Tandis que le curé se dirigeait vers la sacristie, elle l'avait suivi. Bonjour, monsieur le curé.
Bonjour, Marie-Angélique. Vous voilà bien matinale.
Pourriez-vous m'entendre en confession, monsieur l'abbé ?
« Mais bien sûr, je retire mes ornements et je vous suis. »
Agenouillée, Marie-Angélique attendit le prêtre. Il entra dans le confessionnal et ferma sa porte. « Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. » Après l'avoir entendu longuement, le curé resta quelques instants sans dire un mot derrière sa petite grille de bois et lui donna l'absolution, assortie d'une pénitence de prière. Puis, lorsqu'ils furent de nouveau face à face au fond de l'église, déserte et sombre, « Ma chère enfant, voulez-vous que nous parlions de votre situation ?»«
Je suis ici pour cela, monsieur l'abbé. »«
Que puis-je faire pour vous ?»«
Vous pouvez tout. Vous nous avez mariés, le duc et moi, il y a 6 années déjà, et vous saviez toute la profonde affection que nous avions l'un pour l'autre. »«
Bien sûr, je connaissais Louis depuis très longtemps, comme vous le savez. »
Vous savez alors que le seul drame de sa vie a été de ne pas pouvoir avoir d'enfant.
Malheureusement, cela n'a pas été possible. Or, les hasards de la vie font que je peux lui offrir cet héritier tant désiré.
Mais comment est-ce possible ? De quelle manière ?
Oh, très simplement. Il suffirait que vous fassiez une toute petite erreur de date sur votre grand livre lors de la naissance de cet enfant. Les yeux du prêtre s'agrandirent d'étonnement. Il n'en croyait pas ses oreilles et son ton se fit sévère.
« Mais y pensez-vous pour tout de bon ?»«
J'y pense, je vous l'assure. Et j'ajoute même que l'idée m'a été soufflée par notre ami commun, le docteur Aubert. Vous étiez tous deux des amis très proches de mon époux.
Croyez-vous vraiment que le duc réprouverait cela ou vous remercierait-il ?»
Thank you.
La stupéfaction passée, le vieux prêtre reprit ses esprits et lui dit qu'il fallait qu'il réfléchisse. Elle lui dit qu'elle comprenait bien évidemment, mais ajouta qu'il était son seul espoir. « Mais comment allez-vous faire, Marie-Angélique? Vous n'empêcherez pas les gens de compter sur leurs doigts et de médire à l'envie. » Elle balaya cela d'un revers de la main. « Je compte me cloîtrer aux ormeaux dans quelque temps et attendre tranquillement cette naissance. Puis, l'enfant sera censé avoir été quelques mois en nourrice. Je resterai vague quant à son âge. D'ailleurs, j'ai l'intention de demander au roi d'être le parrain de cet enfant. Je sais qu'il acceptera. » Et personne n'osera discourir sur le filleul de Louis XV. L'abbé, cette fois, sourit de l'entêtement de sa pénitente. « Je vois que vous avez pensé à tout, ou presque. » À bout d'argument, il ajouta pourtant. « Avez-vous pensé que cet enfant pouvait ne pas être un garçon ?»« Mais l'abbé, je suis sûre que c'est un garçon. Je le sais !» La jeune duchesse remonta dans sa calèche, toute rassérénée par cette conversation, enfin rassurée et certaine que l'abbé Couette se rangerait à ses arguments. Elle était très fière d'être parvenue à ses fins, elle n'en doutait pas un instant, et tellement soulagée qu'elle se surprit à chantonner jusqu'aux ormeaux. Louisette attendait sa maîtresse pour lui servir le petit déjeuner dès son retour de l'église. Marie-Angélique se débarrassa de sa cape et de sa mantille et s'installa dans la salle à manger en lui demandant de rester avec elle. « J'ai quelque chose de grave et de secret à vous dire. Fermez les portes, je vous prie. Les mois qui vont suivre vont vous paraître bien étranges, Louisette. Dans quelque temps, je vais rester chez moi et je vous demanderai sur tout ceci la plus grande discrétion. J'ai confiance en vous. Et en tout le personnel de cette demeure. Mais il va falloir me promettre de vous taire. Tous. Madame sait qu'elle peut compter sur nous tous et elle connaît mon dévouement. Je sais, mais la situation est extrêmement grave et les conséquences d'une simple indiscrétion me porteraient un grave préjudice. Voilà, j'attends un enfant. Ah, c'est donc cela. Vous n'avez guère l'air surprise. « Pardon, madame, je ne voulais pas être indiscrète, mais je me doutais bien qu'une chose comme celle-ci, avec votre taille, les lacets de vos corsages qui étaient toujours trop serrés... »« Bien sûr. D'ailleurs, vous allez demander à ma couturière de venir sans tarder. Elle va devoir élargir mes robes. Très vite !»« Ne vous inquiétez pas, madame Leroy est très habile. Elle va vous créer des modèles qui vont vous aller très bien. En outre, elle est très discrète. »« Surtout, Louisette, ne dites rien à personne. » Ni au village, ni ailleurs. Mais je compte sur vous pour prévenir tout le personnel des ormeaux en leur faisant la même recommandation. Dites-leur bien que je me repose absolument sur eux. J'ai compris, madame, soyez tranquille. Rien non plus à ma mère. La baronne Dupin ne doit pas savoir. Cela aussi, j'ai bien compris, madame. » Rassurée, Marie-Angélique prit son petit déjeuner avec appétit, avala les brioches dorées qu'elle tartina de confiture et les fruits du verger, et se dit que tout allait bien. Elle se rendrait encore à quelques dîners chez des amis proches pour faire provision de souvenirs joyeux, de fêtes, de danses et de rires, avant de passer aux Ormeaux un hiver et un printemps qu'elle prévoyait très calme. La seule chose qui l'ennuyait vraiment, c'était de cesser de monter Rival, son cheval adoré. Mais le docteur Robert avait été catégorique sur ce point. Et pour ne pas risquer une chute malencontreuse qui ruinerait tous ses espoirs, elle obéirait, pour une fois. Elle demanderait au garçon d'écurie de le monter chaque jour comme il le faisait pour les autres chevaux, et lui rendrait visite en lui portant les morceaux de pain qu'il affectionnait. Elle alla dans sa chambre pour écrire à sa meilleure amie, sa sœur de cœur, comme elle l'a nommée. Anne Augier de Maintenon serait la seule dans la confidence. Elle lui demanderait de venir la voir pour lui raconter tout, car elle ne voulait pas qu'une lettre, en s'égarant, mette à mal son secret. Anne était la petite fille de Charles d'Aubigné, et donc la petite nièce de Madame de Maintenon. Elle habitait d'ailleurs son beau château. Elles avaient le même âge, s'étaient connues à Versailles, s'étaient plues immédiatement et s'étaient liées aussitôt d'une amitié précieuse et sans faille. Dès qu'elle avait reçu la lettre de Marie-Angélique, Anne avait pris ses dispositions pour quitter Maintenon et se rendre aux Ormeaux. Son amie était restée vague, mais confusément, elle sentait que quelque chose d'important était arrivé. « Très chère Anne, j'ai à vous conter une grande nouvelle. Venez chez moi, je vous en prie, et restez autant qu'il vous plaira auprès de votre amie qui s'ennuie de vous. Je vous embrasse, M.A. » Elle fit donc atteler par son cocher sa voiture de voyage et partit avec sa dame de compagnie et une femme de chambre en emportant quelques bagages. 3 jours plus tard, elle arrivait aux Ormeaux. La joie de son amie lui fit aussitôt oublier la fatigue du voyage. Les deux jeunes femmes tombèrent dans les bras l'une de l'autre. « Anne, vous voilà donc, venez que je vous embrasse. Merci, merci d'être là, fidèle amie. » « Ne vous y trompez pas, ma chère, c'est la curiosité qui m'a fait me mettre si vite en chemin, » répondit-elle en riant. Mais voyant l'air grave de son amie, elle l'interrogea avec insistance. « Que vous arrive-t-il donc ?» Marie-Angélique l'entraîna dans le salon bleu et demanda qu'on leur serve des chocolats bien chauds et quelques tartes aux fruits, tout juste sortis du four, qu'on leur apporta aussitôt. Elle reposa calmement sa tasse de porcelaine et regardant Anne dans les yeux. « Je me confie à vous. Voilà, j'attends un enfant. » Anne, stupéfaite, la regarda sans pouvoir dire un mot, puis, reprenant ses esprits, « Mais qui est le père ? » ?»« Quoique, en y réfléchissant, j'ai bien là-dessus ma petite idée. Serait-ce par hasard ce beau prince russe que j'ai aperçu à Versailles ?»« C'est bien lui, en effet, celui que vous aviez toutes surnommé le prince des steppes. » Il m'a demandé de l'épouser, mais j'ai refusé car je détestais l'idée de le suivre dans son pays des glaces. Il n'a cependant pas perdu espoir et me l'a écrit. Il faut que je vous avoue que j'ai un peu compliqué la situation. J'espère que vous ne me jugerez pas et surtout que vous me comprendrez. Elle lui détailla brièvement le plan qu'elle avait ourdi pour donner au duc son époux un héritier posthume. Cette fois, c'est une lueur d'admiration qu'elle lut dans le regard de son amie. « Mais quelle belle idée, ma chère, qui suppose néanmoins une organisation sans faille. »« Vous m'aiderez, je le sais, » dit la jeune duchesse en terminant tranquillement son goûter. Je vous ai fait préparer la chambre bleue, vous y serez à votre aise. Venez, je vais vous y installer. » Elles montèrent toutes les deux le grand escalier, la blonde et la brune, se tenant par la main, leurs longues robes balayant les marches, heureuses comme deux adolescentes de se retrouver, et parcoururent la longue galerie qui desservait toutes les pièces. Elle était meublée de commodes marquetées en bois précieux, surmontées de tableaux entre chaque fenêtre, des portraits d'ancêtres pour la plupart, mêlés de paysages romantiques et champêtres du plus bel effet. « Vous avez là une fort belle demeure. »« Il est vrai que je m'y sens bien et je dois dire que je m'y plais beaucoup. »« Venez, je vais vous faire les honneurs de mon cabinet de bain. Cet agencement est une idée de mon époux. Il y a là une jolie baignoire en cuivre et de quoi faire chauffer l'eau. C'est vraiment très agréable de s'y prélasser avec des parfums de lavande et de jasmin. » C'est un plaisir auquel je m'adonne chaque jour. La chambre bleue était tout à côté. Elle était grande et meublée joliment. Un grand baldaquin au-dessus du lit avec des rideaux de toile de Jouy qui encadraient aussi les deux fenêtres donnant sur le parc. Une coiffeuse et un petit bureau plat avec quatre fauteuils complétaient l'ensemble harmonieux. « C'est vraiment parfait, je vais être très bien ici, » dit-elle en regardant autour d'elle. « Ne craignez-vous pas que je m'y installe pour longtemps ?»« Anne, rien ne me ferait plus de plaisir, soyez-en sûre. Reposez-vous. Nous souperons un peu tard ce soir. » Sur les 6 heures, Anne, qui avait dormi un peu, sortit de sa chambre et vint dans le salon retrouver son amie. Comme les soirées devenaient fraîches, elle avait revêtu une robe de velours orange feu et avait posé un grand châle de cachemire sur ses épaules. Marie-Angélique portait une robe bleu roi qui seyait à son teint de porcelaine et à ses cheveux blonds ramenés en chignon bas sur la nuque. Elles se complimentèrent avec entrain. « Regardez-nous, Anne !» « Ne croyez-vous pas que nous aurions beaucoup de succès ce soir à Versailles ?» Anne sourit et fit remarquer à son amie que le temps de la séduction était peut-être un peu passé pour le moment. « mais non, pas du tout. Je me sens toujours aussi jeune et gaie et ce n'est pas le fait que je couve un petit duc qui changera quelque chose à mon état d'esprit. » Elles papotèrent joyeusement tout en dînant, évoquant leurs souvenirs, leurs amis communs, les bons moments passés à s'amuser, à rire et à danser, à flirter même avec tous ces beaux gentilshommes qui les accompagnaient dans les jardins de Versailles en leur tenant la main, leur mouchoir ou leur ombrelle, s'efforçant de paraître brillants causeurs, pleins d'humour et de charme, et qui essayaient de les faire sourire et rire même. « Je dois avouer, dit Marie-Angélique, que dès le premier regard, Victor m'a littéralement subjuguée. Il a des yeux extraordinaires. »« Enfin, ils sont noirs, voilà tout !» commenta Anne taquine. « Mais oui, il est beau, votre prince des steppes, il est de belle taille. Il a de la noblesse dans son maintien, son français plaisant et châtié, son élégance rare, et il a en plus de tout cela un charme fou. » Il n'y a qu'à voir comment toutes ces gourgandines tournaient autour de lui comme des abeilles. Pour choisir finalement la reine, allez-vous lui dire pour l'enfant ? Non, je ne lui dirai rien pour le moment, ni à lui ni à personne. Après, plus tard, on verra. Pourquoi ne venez-vous pas passer les quelques mois avant la naissance chez moi, à Maintenon ? Vous seriez bien tranquille, loin d'ici, et je m'occuperai de vous avec beaucoup de joie. « Je suis très touchée par votre proposition, c'est vrai que ce serait une bonne solution. Mais voyez-vous, je suis bien ici. J'ai l'impression que cette demeure me protège. Et puis, j'ai mon médecin à louer, qui prend soin de moi. Il passe ici chaque semaine pour s'assurer que tout va bien. J'ai en lui la plus grande confiance et je veux, en outre, que mon enfant naisse aux Ormeaux. » Pierre, le cuisinier, toque sur la tête et grand tablier blanc autour de la taille, était venu lui-même les servir. Tout en causant, autour de la table juponnée de blanc à la lueur des bougies, elle se délectait de petits pâtés croustillants à la viande et de salades aux herbes du jardin des simples. La fameuse crème à la pistache dont la duchesse avait soustrait la recette à Versailles finirait ce souper. À l'occasion de ses retrouvailles, elle avait demandé à Pierre de mettre une bouteille de champagne dans le grand rafraîchissoir en argent. Elle dégustait en riant le vin frais et pétillant, en toutes petites gorgées, dans ses coupes de verre, moulées, selon la légende, sur le sein blanc de Madame de Pompadour. Mais vous-même, Anne, n'avez-vous pas rencontré le grand amour à la cour ?
J'y ai vécu quelques amourettes, il est vrai, mais guère plus.
Il est vrai que votre ami Guillaume de la Danière m'a fait une cour assidue. Ma foi, en y réfléchissant, Bertrand de Ruillet me plaît aussi. Voulez-vous que nous les invitions ? Je vais organiser quelque chose, pourquoi pas un pique-nique, tant qu'il fait encore beau, ou un souper si vous préférez. Allez voir toutes les deux, ensemble, on aurait dit deux adolescentes. Elles firent un sort à la grande jatte de crème de pistache. Puis, elles sortirent sur la terrasse, éclairées par des lanternes posées à même les dalles de pierre, pour écouter le chant des grenouilles, amoureuses, dans la mare voisine, et admirer les étoiles. Retrouvez-moi la semaine prochaine pour la suite de ma saga Les Lumières de l'amour sur les ondes de Radio Grand Ciel. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires sur mon email personnel france.guimard.roche@gmail.com.